Place Info. 20h, 21h, les informés, Victor Mattey.
Bienvenue à tous dans les informés, une heure de débat, de discussion autour de la table. Ce soir, Cécilia Gabizon, bonjour.
Bonjour.
Fondatrice de l'incubateur Média Marqueur, spécialiste des médias digitaux. Avec nous également Alexis Poulain, bonsoir.
Bonsoir.
Plutôt bonjour d'ailleurs, il est 20h.
Bonjour.
Co-fondateur du Monde Moderne et Michel Taube du site d'information Opinion Internationale. Bonsoir, bonsoir à vous également et bienvenue à tous les trois. Notre premier sujet ce soir, la mort d'un maire d'une petite commune du Var, on l'a entendu, Signes, près de Toulon, renversé hier par un fourgon qui déversait des déchets de façon illégale. Beaucoup de réactions dans la classe politique, notamment quand on rôle des maires élus à tout faire. Ce sera donc notre premier sujet de discussion. Quelques 700 contraventions distribuées en un an. La loi Schiappa sur les violences sexistes et sexuelles est-elle efficace? Est-elle suffisante? Bilan donc après un an d'existence. Plus de 800 morts depuis le début de l'année en Méditerranée et l'Italie qui réprime encore un peu plus les ONG qui secourent les migrants. Que fait l'Europe? Que fait la France? Se demandent les associations. Nous nous poserons également la question. Notre quatrième et dernier sujet, on s'intéressera à la question de l'ours en Ariège dans les Pyrénées. Plus de 100 maires ont manifesté ce matin à Toulouse pour réclamer son retrait. Y a-t-il vraiment danger? Nous verrons ce qu'en pensent nos informés. Jean-Mathieu Michel, 76 ans, est donc mort hier, maire de la commune de Signes dans le Var, 2800 habitants. Il a tenté d'empêcher une fourgonnette de déverser illégalement des gravats et a été ensuite renversé par le véhicule. La piste accidentelle est pour l'instant privilégiée, mais depuis ce matin, il annonce de son décès de très nombreuses réactions dans le monde politique, à l'image de Jean-Pierre Véran, président de l'association des maires ruraux du Var. Il était cet après-midi l'invité de France Info.
La République est en deuil parce qu'on a touché à la République et c'est un scandale parce que nous sommes des hommes et des femmes qui travaillons pour l'intérêt de nos concitoyens dans nos communes et tout ce que nous faisons, c'est avec force et vigueur qu'on le fait. On le fait pour nos administrés, on le fait pour notre département, on le fait pour notre pays, on le fait pour la France. Mourir dans l'exercice de ses fonctions, c'est abominable.
C'est la République qui est touchée directement, Cécilia Gabizon, comme vient de le dire Jean-Pierre Véran.
Oui, enfin ça semble quand même s'orienter sur la piste d'un accident et c'est super triste. Donc je pense pas qu'il ait été visé délibérément, mais effectivement en tout cas ça parle du rôle des maires et du rôle de ceux qui veulent faire respecter aussi les règles, les lois, le bien commun et qui quelque part s'expose parfois en tout cas à la violence, à de la tension, même si là en l'occurrence faudra attendre l'enquête, mais ça semble plutôt être un accident. Mais effectivement en tout cas les maires se sentent en danger. C'est pas la première fois. C'est peut-être pas ce cas-là, mais c'est pas la première fois en fait qu'ils sont insultés, menacés, mis en cause, et que il y a eu pas mal de maires qui ont dénoncé en fait le fait qu'ils étaient maintenant mis sous pression et qu'ils n'avaient plus d'ailleurs envie de se représenter comme maire.
On a entendu justement sur France Info tout au long de la journée des maires ruraux, des maires de petites communes parler du nombre grandissant d'incivilités envers leurs personnes. Je sais pas lequel d'entre vous deux veut réagir, Michel Taube peut-être.
En fait, le fait que ce qui s'annonce peut-être comme étant plutôt un accident suscite autant d'émoi, c'est dire combien les élus sont à fleur de peau. Et c'est vrai que depuis maintenant près de 10 ans, il y a eu une accélération très forte des démissions de maires. J'ai retrouvé les chiffres. En 2017, il y a eu près de 300 maires qui ont démissionné. Il y en avait eu moins de 150 10 ans auparavant. Donc il y a vraiment une crise, j'ai envie de dire, des vocations, et qui touche surtout les petites communes. Surtout les petites communes. La mairie de Signes, c'est 2500 habitants. Et en fait, la France, le pays des 36 000 communes, enfin le poumon de notre pays, le cœur battant de notre pays, ce sont les maires et les municipalités de petite taille. Et c'est vrai que, quand bien même ce serait un accident, le drame qui est arrivé à Jean-Mathieu Michel, c'est finalement tellement représentatif de ces maires très nombreux qui se sentent délaissés, qui ont de moins en moins de moyens. Il y a ça aussi qui est en jeu. Et ça va très loin. Là, tout à l'heure, je voyais que la commission des lois du Sénat a décidé, non pas d'ouvrir une commission d'enquête, mais de lancer une grande consultation auprès de tous les élus de France, en lien avec l'Association des maires de de France pour justement faire remonter quelles sont leurs doléances et leurs besoins de mesures concrètes pour améliorer leurs conditions de travail. Donc en fait, on a là malheureusement une tragédie qui est peut-être accidentelle, mais qui est tellement représentative d'un des mal-être qui monte dans la population des élus de France.
Cela pourrait sembler paradoxal, pourtant dans des communes, là on parle de 2800 habitants, avec des maires qui connaissent, alors peut-être pas tout le monde, mais enfin quasiment tout le monde quand même, Alexis Poulain.
Oui, ils connaissent tout le monde, mais c'est bien le problème de cette fonction, c'est la charge, à la fois la responsabilité que vous avez en tant que maire, et c'est quelque chose qui vous habite 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où vous êtes le premier et le dernier recours. Systématiquement, quand quelque chose ne va pas, c'est vers le maire qu'on se tourne, c'est pas vers le député, c'est pas vers le sénateur, c'est le maire, c'est lui qui est là, c'est, comme on dit, il est à portée de baffe, c'est l'élu qui
c'est le président
qui porte...
du Sénat, hein, Gérard Larcher, qui a cette formule là, utilisée tout à l'heure sur Twitter, en disant le maire n'est donc plus seulement à portée d'engueulade quand il se met au service du bien
c'est
commun.
Ça. Et ce problème-là, en fait, de dévalorisation aussi de la fonction. Enfin, on avait l'habitude, c'était un notable qui avait cette fonction-là de manière naturelle. C'est plus vraiment le cas. Il y a la pyramide des âges aussi. Il faut voir que c'est pas une fonction qui attire les jeunes, qui vont et c'est compréhensible compte tenu des responsabilités. Et puis des réalités extrêmement différentes entre les maires de petites communes rurales qui se battent pour garder une école, garder la poste, faire arriver les transports, et puis des maires de plus grandes communes qui ont d'autres enjeux sur le prix du logement, le transport, l'écologie. Tout ça fait que ils sont bien seuls, et pourtant la commune, c'est l'échelon premier de la démocratie, c'est l'échelon de tous les enjeux aussi où on peut voir la différence. Mais il faut que tout le monde se rende compte que c'est un travail de tous. C'est pas seulement le maire qui est responsable de ce qui se passe. L'incivilité, c'est eh bien symptomatique de ce je m'en foutisme citoyen qui finalement, moi je fais ça et puis c'est pas grave, j'ai le droit de le faire si je suis pas pris. Non, chacun doit se rendre compte que c'est un effort quotidien de faire en sorte que la commune soit un espace vivable de respect pour tout le monde.
Et on poursuit le débat dans un instant, 20h10 sur France Info. Le point sur l'info avec vous, Claire Flochel.
Les noyades ont quasiment doublé en 3 ans, plus 96% entre 2015 et 2018. Les pompiers appellent à la vigilance. De nombreux parents ne surveillent plus assez leurs enfants car ils sont absorbés par leur téléphone portable. Les résultats des analyses au plomb de l'Agence régionale de santé sont tombés. 160 enfants ont été dépistés après l'incendie de Notre-Dame de Paris au mois d'avril. Deux se situent au-dessus du seuil de vigilance. La présence de plomb dans le sang présente de vrais risques, tels que le saturnisme. Pendant l'incendie de la cathédrale, plusieurs centaines de tonnes de plomb contenues dans la charpente et la toiture de l'édifice se sont répandues sous forme de particules. La permanence de la députée LREM de l'Eure, Claire au Petit Taguet, ce mardi. C'est la quatrième fois que ses locaux à Étrepagny subissent des actes de vandalisme. Ces derniers jours, une vingtaine de permanences de députés de la majorité ont été dégradées. La plupart de ces actions visent à dénoncer la ratification du CETA, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Un livreur de la plateforme Uber Eats s'accusait de viol par une cliente. Cette femme de 32 ans accuse l'homme de l'avoir violée alors qu'il venait d'entrer chez elle pour lui apporter sa commande la nuit dernière à Paris. Des investigations sont en cours pour l'identifier. Et puis Barack Obama salue la mémoire de Toni Morrison. L'ancien président américain la qualifie de trésor national. L'écrivaine est morte à l'âge de 88 ans. Elle est la première auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature. C'était en 1993.
France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Avec toujours dans le studio de France Info, Cécilia Gabizon, Alexis Poulain et Michel Taube. On évoque la mort hier du maire de Signes, cette commune dans le Var, le maire de Signes, renversé par une fourgonnette. On parlait de l'incivilité, d'une responsabilité peut-être collective. Les personnes à bord de la fourgonnette étaient en train de décharger illégalement des gravats. Un élu local aujourd'hui sur notre antenne évoquait sur France Info 88 000 tonnes de déchets illégaux, comme ça, déversés par an. Ça paraît fou, Michel Taube.
Ça paraît fou et ça fait partie des nombreux sujets que les maires ont à gérer sans avoir le pouvoir de les gérer. C'est-à-dire qu'en fait, tout est devenu tellement complexe, les problèmes de santé, problèmes d'environnement.
On voit bien puisqu'il est allé sur le terrain comme
exactement.
Ça.
Exactement. Et en fait, la seule solution très souvent, c'est de s'adresser aux personnes et de faire appel à leur bon sens et au relationnel qu'a l'élu local. Mais souvent, il n'a pas le pouvoir. Alors, je crois, il paraît-il, il voulait dresser une contravention. Mais qu'est-ce que va faire une contravention face à quelqu'un qui veut déverser des tonnes de gravats et qui, s'il le fait pas là, le fera le lendemain ou le surlendemain. Donc il y a vraiment effectivement une désespérance des élus locaux. Après, quand même, je veux dire que d'après mes informations, mais Jean-Mathieu Michel, lui, voulait se représenter au prochain municipal. Il a fait 4 ou 5 mandats de maire, mais lui ne faisait pas partie des démissionnaires ou des lassés ou des désespérés de la fonction. Donc c'était un maire courageux, volontaire, et il voulait rempiler pour les prochaines municipales, puisque, comme on le sait, on entre dans une période d'élections municipales.
Avec les élections en mars prochain, on l'a dit, hein, il y a ces incivilités, il y a ces rapports parfois compliqués entre l'élu local et les citoyens. Et en même temps, dans toutes les enquêtes, on voit qu'à chaque fois, eh bien, le maire, effectivement, reste tout de même, comme on dit, l'élu préféré des Français. Il y a une sorte de paradoxe, là aussi, Cécilia Cabizon.
Moi, je dirais que le maire, c'est l'élu préféré, c'est l'élu du futur. En fait, là, on parle énormément du renouvellement de la classe politique. Comment est-ce qu'on va co-construire des programmes, de l'organisation, de la confiance, cette fameuse séparation entre les élites et le peuple. Justement, le maire est en fait la figure qui incarne la politique de terrain. La politique de terrain, la politique proche des gens, la politique de l'intérêt, comment on prend le temps de conjuguer les intérêts des uns et des autres, ce qui n'est pas facile. Pour avoir présidé une association de parents d'élèves, c'est un travail qui prend un temps fou, c'est-à-dire la moindre décision commune prend un temps incroyable, car il faut ce temps de parole. On ne peut pas en faire l'économie. En fait, le maire, c'est le seul élu qui a encore ce temps pour consulter, conjuguer les choses. Donc c'est une fonction particulièrement intéressante, et je pense avec les enjeux écologiques qu'on a, là vous parliez des gravats, bien sûr, c'est super important, avec les enjeux écologiques qu'on a, mais qui vont être toujours des enjeux d'arbitrage entre du développement économique, de la préservation. En fait, le maire est très très proche de ces enjeux-là, et pour les résoudre à une échelle qui n'est pas suffisante à lui tout seul, mais qui est intéressante, qui est l'échelle locale avec un impact immédiat et aussi un impact de conservation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on fait pour le futur de notre commune? Donc c'est un enjeu de décision qui est vraiment passionnant, l'enjeu du maire. Et donc je pense que, bien sûr, là c'est très dur, et probablement il va falloir, si les maires ne veulent plus y aller, c'est que la charge mentale, la charge de travail est trop forte et probablement pas assez rémunérée aussi. Donc il y aura de la réorganisation, mais en termes de fonction, je pense que la fonction du maire, c'est une fonction d'avenir en politique.
Élu du futur, élu menacé aussi, Alexis Poulain.
Oui, élu du futur, parce qu'il faut repenser la manière dont on organise la démocratie. Enfin, on voit bien, il y a une envie de démocratie participative. La commune, c'est l'échelon premier. Il y a une envie aussi d'agir sur l'enjeu écologique et climatique. La commune aussi, ça va être un échelon clé du succès ou pas des politiques qui peuvent être mises en place, que ce soit sur le bâti, que ce soit sur les énergies renouvelables, que ce soit sur la façon dont chaque citoyen va se sentir investi de ce qu'il peut faire. On voit la différence, la collecte des déchets. Enfin voilà, on part sur des choses concrètes. La politique, c'est agir sur le concret. Donc c'est pas simplement des chiffres sur l'assurance chômage, des choses comme ça. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire à cette échelle-là qui est celle de la commune. Donc oui, ça peut être un élu d'avenir si on repense la fonction. Mais c'est toutes les fonctions électives aujourd'hui, on leur en demande trop. On demande aux députés d'être des experts et en même temps d'être sur le terrain. C'est 24 heures une journée. À un moment, il faut se rendre compte que ces fonctions électives, elles ont évolué, que c'est extrêmement complexe, qu'on leur demande maintenant de légiférer sur le CETA, par exemple. Quand vous êtes député, vous n'avez pas le temps de lire les 3000 pages, de comprendre. C'est extrêmement technique, et pourtant, on leur demande de voter en leur âme et conscience. C'est compliqué.
Alors, la différence, c'est que les députés ont des assistants, des équipes, les maires, dans une commune de 1000 habitants.
Ils ont rien. Et on leur demande de tout faire. Et là aussi, il y a un côté super.
Et pire, leur dotation générale de fonctionnement a été fortement diminuée ces dernières années. Voilà. Alors certaines, elles ont été réaugmentées récemment, mais c'est pas le cas de tout, bien largement. Et effectivement, il y a aussi une crise des moyens pour eux d'exercer leur fonction. La suppression de la taxe d'habitation a aussi créé, même si l'État annonce qu'elle va être intégralement compensée, mais beaucoup d'élus en doutent. Voilà, donc il y a aussi il y a une très forte sollicitation. Évidemment, le maire, c'est l'élu de demain, mais s'il n'a pas les moyens de le faire, il aura du mal à être l'élu d'après-demain.
Et toutes ces problématiques, toutes ces questions, on les a vues d'ailleurs lors du grand débat national. On a vu ces maires ruraux qui interpellaient Emmanuel Macron directement. Est-ce que les choses ont changé depuis ce grand débat? Est-ce qu'elles vont changer, Michel Thaume?
Moi, je trouve qu'on les a surtout vus d'abord jouer le jeu du grand débat national.
Ils ont été des milliers, peut-être
des dizaines de milliers, en tout cas des milliers, à jouer le jeu, d'organiser des débats, de faire remonter les doléances. Et j'ai trouvé qu'ils remplissaient un rôle, du coup, pas que local, mais également de transmission du local vers le national, pensée locale, pensée globale, agir local, comme disait Edgar Morin. Ils ont joué vraiment un rôle citoyen, démocratique, extrêmement salutaire. Je suis pas certain que l'exécutif et le politique au niveau national leur aient renvoyé l'ascenseur en les reconnaissant à leur juste mesure.
Je vous vois faire nom de la tête, Alexis
Poulain. Non.
Une manière d'acquiescer au propos de Michel Taub,
justement. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que le grand débat a été en partie volé. Il y avait une vraie envie de libérer la parole, d'être entendu, de parler. Et puis on voit que les conclusions sont volées d'une certaine façon. C'est le président qui fait une conférence de presse. Et on oublie le rendu qui a été fait au Grand Palais. Pourtant, il y avait beaucoup plus de sujets. Il y avait un vrai besoin, en fait, de faire ça. Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer au niveau local? Et il y a un autre problème aussi. Alors, c'était un problème, le cumul des mandats, certes. Mais ça permettait d'avoir des députés maires, c'est-à-dire des gens qui étaient conscients de la réalité du terrain et qui pouvaient après faire des lois qui étaient en connaissance de cause. Là, on a encore davantage isolé les maires dans cette logique jacobine française de tout centraliser.
Alors on a cette coupure entre Paris et les régions qui du coup devient plus en plus forte. C'est ça que vous voulez dire?
Absolument. Et ça fait qu'on est encore plus loin des réalités. Et on voit bien, ces maires ruraux ne voient pas comment aujourd'hui va venir l'aide, que ce soit en moyens ou que ce soit en revalorisation de la fonction.
Cécilia Gabizon, encore un mot sur le sujet, peut-être pour clore cette première partie.
Mais sur le grand débat, moi je pense que ça a ouvert quelque chose, ça sera une vague de longue portée. C'est-à-dire que bien sûr, dans l'immédiat, il ne s'est rien passé, mais la discussion, la construction de la discussion, même si c'est toujours frustrant, même si on est toujours volé de ses idées, même si on devient un élément de langage dans une restitution officielle, en fait, ça lance le fait que les gens se remettent dans l'implication et dans la discussion, et je pense que sur de la longue portée, en fait, avec les nouvelles générations, ça va se débloquer. Donc moi, je serais plus optimiste sur le.
Moi, je suis optimiste. C'est juste que la démocratie participative, le grand débat lui a fait du mal en termes d'image, en termes d'expliquer au grand public ce que ça peut être, parce que c'était effectivement un beau projet, mais qui a été complètement volé et travesti par la façon dont ça a été mené.
Ça voudrait dire qu'il faudrait continuer aussi, il y a eu ce grand débat national de quelques mois, il faudrait continuer chaque année à finalement réorganiser peut-être ce genre de rencontres, en tout cas de discussions.
Il faudrait faire redescendre au niveau local et au niveau des élus locaux toutes les aspirations qui ont été exprimées dans le grand débat et auxquelles, encore une fois, les élus, ils n'en étaient pas du tout obligés. Ils ont pris la liberté et la responsabilité d'y participer.
Les informés reviennent dans un instant, 20h20, un point sur l'info ce soir avec vous, Claire Flochel.
Prudence si vous vous trouvez dans le centre ou l'est. 20 départements sont en alerte orange aux orages. La vigilance concerne une grande diagonale du Tarn-et-Garonne au Bas-Rhin. Ces orages peuvent être localement violents avec fortes précipitations, fortes rafales de vent et même grêle. Dans la Loire, par exemple, les pompiers ont dû intervenir une cinquantaine de fois à Montbrison. Une cérémonie anime devant plus de 500 personnes. L'hommage ce matin à Franck Chesneau, le pilote de 49 ans mort vendredi dernier. Son bombardier d'eau s'est écrasé alors qu'il luttait contre l'incendie de Générac dans le Gard. Franck Chesneau a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Un premier hommage sera rendu au maire de Signes jeudi à 16h devant la mairie de la commune varoise. Jean-Mathieu Michel est mort hier après avoir été renversé par un fourgon à bord. Deux hommes étaient en train de décharger illégalement du gravat sur un chemin privé de la commune. Le conducteur est toujours en garde à vue ce soir. L'Italie a choisi de bafouer le droit international. L'Union européenne doit réagir. La réaction sur France Info de Francis Perrin, vice-président d'Amnesty International France, après l'adoption hier soir par le Sénat italien d'une loi anti-migrants. Un texte voulu par Matteo Salvini et qui donne des pouvoirs élargis au ministre de l'Intérieur pour interdire les eaux territoriales aux navires ayant secouru des migrants et confisqué les bateaux des ONG. Et puis en football, Laurent Koscielny s'engage chez les Girondins de Bordeaux. Le défenseur de 33 ans quitte Arsenal. On ne connaît pas pour le moment le montant du transfert ni la durée de son contrat.
France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Les informés ce soir avec Cécilia Gabizon, Alexis Poulain et Michel Taub. On continue de parler de l'actualité. Bien sûr, notre deuxième débat à présent, un an après son entrée en vigueur. Quel bilan pour la loi de Marlène Schiappa contre les violences sexistes et sexuelles qui pénalisent notamment les propos dégradants, humiliants, intimidants, hostiles ou encore offensants. Voilà pour le texte, avec des amendes de 90 à 1500 euros. 713 contraventions, très exactement, ont été dressées en 12 mois. C'est peu, disent les associations, et ce n'est pas, bien évidemment, l'avis de Marlène Schiappa.
Moi, ce que je voudrais rappeler quand même, c'est qu'il y a un an, quand on a voté cette loi, on a entendu énormément de gens nous dire « la verbalisation du harcèlement de rue, ce n'est pas possible, vous aurez une ou deux amendes. En Belgique, ils ont réussi à avoir deux condamnations seulement, vous n'y arriverez pas, il n'y aura pas de verbalisation. » Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'à peine quelques mois après, on a plus de 700 verbalisations en flagrant délit pour harcèlement de rue, pour des faits d'outrage sexiste. Donc ça veut dire que cette loi, elle fonctionne. On n'a jamais autant parlé de harcèlement de rue que depuis que cette loi a été votée. C'était un sujet qui était sous les radars des politiques publiques précédemment. Maintenant, le harcèlement de rue est interdit. Intimider, suivre, invectiver, humilier une femme dans l'espace public est désormais passible d'amende. C'est important de le rappeler.
La secrétaire d'État Marlène Schiappa, deux infractions en Belgique en un an, deux par jour donc en France, environ 700 pour cette année depuis l'entrée en vigueur de cette loi. Quel bilan vous en tirez, vous, Cécilia Gabizon ?
Bon, c'est une loi symbolique. C'est une loi symbolique par rapport à l'étendue du phénomène. On sait d'ailleurs même pas quelle serait vraiment l'étendue du phénomène. Dans les différentes enquêtes, on a parfois jusqu'à 80% des femmes qui disent qu'elles ont déjà, 80-90% des femmes, qu'elles ont déjà souffert de harcèlement de rue. Donc, un phénomène massif, polyforme, polymorphe, ça peut se produire partout, plutôt en ville. Moi, sur les 700, je sais pas ça serait intéressant d'ailleurs de voir le détail, parce que comment on arrive à faire des flagrants délits, c'est intéressant sur ce genre de sujet. Ce que je me dis, c'est qu'en tout cas, là où Marlène Schiappa a raison, c'est qu'on n'en a jamais autant parlé, qu'il est devenu clair que c'était inadmissible et interdit, alors que jusqu'à présent, et là je m'exprime aussi comme femme, jusqu'à présent en fait on a traversé ça avec une certaine confusion, chacun s'arrangeait à sa manière pour faire face aux situations qui vont jusqu'au du compliment sympa au truc super lourd et à l'agression. Et donc et là maintenant je pense que là il y a eu un changement de génération en fait là aussi. Un changement de génération qui fait que ces comportements sont devenus inacceptables et que ça n'était pas si clair avant la loi. La loi a ouvert aussi ce débat-là. C'est devenu inacceptable. Alors, il y en a qui le contestent, on a vu des tribunes, mais si on peut plus draguer à la française, etc. Mais en tout cas, c'est devenu inacceptable, c'est devenu hors la loi. Et ça a créé, en fait, quand même une sorte de première borne qui dit, bon, il faut peut-être pas confondre la drague avec le harcèlement. Et en fait, ça a ouvert ce débat-là et ça, c'est intéressant. Maintenant, il y a un travail d'éducation énorme devant nous, parce que vu l'ampleur du phénomène, on n'en est qu'au début, quoi.
Alors, symbole, continuité de la libération de la parole, on en est où, Michel Taube, avec cette loi?
Je pense que moi, je veux retenir de ce bilan le côté symbolique, effectivement, parce que 713 verbalisations, c'est beaucoup, mais c'est infiniment peu par rapport au nombre d'agressions sexuelles et de comportements qui tomberaient sous le coup de la loi. On en est certainement, malheureusement, à des centaines de milliers. Si je prends les chiffres, par exemple, sur les agressions sexuelles, qui sont un peu plus large que ce que recouvre la loi, c'est 553 000 agressions sexuelles, c'est-à-dire plus d'un demi-million pour la plupart des femmes qui disent avoir été agressées en 2017. Donc la loi, en termes d'efficacité concrète, elle n'apporte malheureusement pas grand-chose. En revanche, effectivement, moi je veux retenir le côté symbolique et le côté agit-propre, et il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler pour lever un tabou. Mais j'ai envie de dire, c'est pas Marlène Schiappa, c'est pas sa loi qui a ouvert le débat. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Ce n'est ni cette loi qui a été présenté comme une grande loi et qui, honnêtement, qui est malheureusement qu'une loi symbolique, c'est ni le fait d'avoir fait la lutte contre les violences faites aux femmes la grande cause du quinquennat Macron. Ce sont les femmes elles-mêmes qui ont pris les devants et qui ont pris les choses en main avec MeToo, avec
Balance Ton Port. Dans la foulée de l'affaire
Weinstein.
Évidemment,
c'est ça qui a ouvert la voie, qui a libéré la parole et qui nous a fait entrer dans une nouvelle ère. Celle où, effectivement, la prise de parole et des femmes qui ont le courage.
Mais les autorités, voilà. Le gouvernement auraient pu rester sourds aux revendications et rien faire. Je ne dis pas
ils ont
que
accompagné
voilà,
le mouvement, mais
parfois
on a un peu l'impression que c'est Marlène Schiappa qui est au devant du combat. Non, c'est les femmes qui sont au devant de la scène. Et qui, au niveau de la société civile, ont pris les devants et sans arrêt. À la rentrée, il y a un Grenelle contre les violences faites aux femmes. Pourquoi il y a un Grenelle ? C'est parce qu'il y a une demande sociale très forte au niveau des femmes et des organisations féministes. Donc là, vraiment sur ce sujet, c'est la société qui mène la danse et j'ai envie de dire tant mieux.
Alexis Poulain ?
Oui, tant mieux, c'est un tabou levé, c'est quelque chose qui avance, et effectivement c'est la société civile qui va toujours plus vite que les politiques, mais la loi trouve ses limites, et puis il y a d'autres tabous. Sur le monde moderne, j'ai posté ce matin une interview avec Françoise Laborde, qui a écrit un livre, Le massacre des innocents, sur la pédophilie. C'est deux enfants aussi qui sont victimes chaque jour en France depuis 2016 à peu près, les chiffres sont effarants, et c'est un tabou dont on ne parle pas dans aucune rédaction, et on attend beaucoup aussi de Marlène Schiappa sur ce thème-là, parce que rien n'est fait, en fait, dans la façon dont ces enfants sont pris en charge. 300 000 enfants qui sont pris en charge par les services sociaux. Des appels à l'aide aussi, souvent, comme c'est le cas des femmes battues, qui posent des mains courantes, qui font des choses, et puis souvent c'est trop tard, elles tombent sur les coups des maris. C'est la même chose pour les enfants. C'est bien d'avoir des lois sur le harcèlement de rue, c'est quelque chose qui est aussi beaucoup du domaine de l'éducation. Quand on est dans le domaine de la non-assistante à personne en danger, c'est autre chose. Et là, il faudrait aller beaucoup plus vite. Et je pense qu'il faudra regarder de près les travaux de septembre de ce Grenelle sur les violences faites aux femmes, et voir aussi ce qui va être fait dans le cas des violences faites aux enfants, parce que c'est extrêmement grave et il faut aussi aller beaucoup plus vite et réorganiser la façon dont l'État prend en charge ces graves dysfonctionnements des services sociaux.
Et on évoquera ce Grenelle justement dans la deuxième partie désinformée dans un instant, la météo et puis un point sur l'actu à venir.
Infos sur tous les assistants vocaux. Demandez les infos à votre enceinte connectée.
Les dirigeants européens sont réunis à Bruxelles pour un sommet.
France Info, deux points, ouvrez l'info.
France Info Météo, avec Gauthier, séjour, salon, chambre et dressing, le mobilier pour toute la maison à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Sébastien Léas à Météo France.
Conditions agitées sur le pays, une perturbation pluvieuse s'étend des Pays de la Loire au bassin parisien, au nord et aux Ardennes, et va donner des pluies localement orageuses. Des orages localement forts, parfois porteurs de grêle et accompagnés de fortes rafales de vent, éclatent entre l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Franche-Comté et l'Alsace ce soir, et une nouvelle dégradation orageuse va également concerner le sud-ouest cette nuit pour gagner le massif central avant le début de matinée. Demain matin, ces pluies et ces orages arroseront encore un large quart nord-est jusqu'en Lozère et à Rhône-Alpes. L'après-midi, les averses traîneront encore sur la Lorraine, l'Alsace, le Jura et le nord des Alpes, mais finiront par s'évacuer en fin de journée. Sur la moitié ouest, les éclaircies seront timides en matinée, mais vont s'affirmer l'après-midi en progressant vers la Champagne, la Bourgogne, l'Auvergne et le Lyonnais. Le soleil sera encore plus généreux sur les plages de l'Aquitaine l'après-midi. Les régions de la Méditerranée bénéficieront de belles éclaircies dès le matin, mais quelques grisailles seront encore localement possibles près du golfe du Lion. Avec ce temps ensoleillé, les maximales afficheront 28 à 34 degrés sur le sud-est. Ailleurs, prévoyez 21 à 29 degrés.
Sébastien Léas de Météo France. Merci d'écouter France Info. Il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Amaya Cazenave pour l'info.
Deux agressions hier soir à l'hôpital Pasteur 2 à Nice. Un patient ivre a frappé une aide-soignante et a été blessé à l'œil droit. Une heure plus tôt, un homme s'était introduit de force dans le local technique des urgences. L'établissement va porter plainte. Le personnel de l'établissement, en grève depuis 3 semaines, réclame notamment la présence d'un policier dans les urgences. Depuis l'incendie de Notre-Dame, 160 enfants ont réalisé des tests pour voir si leurs taux de plomb sont normaux. Parmi eux, 16 se situent dans le seuil de vigilance. Et 2 dépassent le seuil de déclaration obligatoire de saturnisme. Les hommages affluent pour saluer la mémoire du maire de Signes dans le Var, Jean-Mathieu Michel, maire depuis 1983, est mort hier renversé par une camionnette. À son bord, deux hommes qui étaient en train de jeter des gravats sur le bord de la route. Cet après-midi, la garde à vue du passager de la camionnette a été levée. En revanche, celle du conducteur a été prolongée de 24 heures, Boris Loumagne.
À bord de la camionnette, deux ouvriers du bâtiment. Leur version est toujours la même depuis le début. Le maire est mort à la suite d'un accident. D'ailleurs, selon le parquet de Toulon, cette piste est privilégiée. Pourquoi ? Tout d'abord parce que quand le maire a ordonné aux deux hommes de ramasser les gravats, ils ont obtempéré. Ensuite, les deux ouvriers conduisaient un fourgon tôlé. C'est une camionnette sans vitre à l'arrière, sans beaucoup de visibilité. Et c'est en faisant marche arrière que le maire aurait été percuté par le conducteur. secteur. Et puis surtout, les deux hommes ne se sont pas enfuis après l'accident. Ils ont attendu les secours. Enfin, les témoins entendus par les enquêteurs évoquent eux aussi la thèse de l'accident. Le conducteur pourrait quant à lui être déféré demain devant un juge d'instruction, et ce après l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide involontaire.
Les précisions de Boris Loumagne pour France Info. Près de 80 hectares de végétation détruits par les flammes à Lablachère. Deux foyers se sont déclarés presque en même temps, en début d'après-midi, dans cette commune du sud de l'Ardèche. Plus de 250 pompiers et 9 canadaires sont mobilisés. Par précaution, un camping a été évacué. Une cinquantaine de vacanciers sont actuellement regroupés dans la salle des fêtes du village. Une grande diagonale du Tarn-et-Garonne au Bas-Rhin, concernée par une alerte orange aux orages. 20 départements seront touchés par de fortes précipitations, de la grêle et des rafales de vent qui pourront dépasser les 100 km/h. Et puis la mise en garde des sapeurs-pompiers suite à la hausse significative des noyades en France. Ils demandent aux parents de délaisser leur portable pour mieux surveiller leurs enfants. En 3 ans, entre 2015 et 2018, le nombre de noyades accidentelles en France a quasiment doublé.
Amaya Cazenave pour l'info, 20h33 sur France Info.
20h21h, les informés, Victor Matet.
Avec toujours nos invités autour de la table, Cécilia Gabizon, fondatrice de l'incubateur Media Maker, Alexis Poulain, cofondateur du Monde Moderne, et Michel Taube du site d'information Opinion Internationale. Un an après son entrée en vigueur, quel bilan pour la loi de Marlène Schiappa contre les violences sexistes et sexuelles. On en parlait à l'instant en évoquant ce Grenelle prévu à la rentrée. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, Cécilia Gabizon?
C'est super important parce que là, c'est ce qu'on est en train de se dire. On est entré dans une séquence où on réalise l'ampleur des violences faites aux femmes, pas qu'aux femmes, mais en l'occurrence faites aux femmes, des violences structurelles, des violences qui perdurent. Et donc ce Grenelle, encore une fois, peut-être que la puissance publique ne peut pas tout, mais à un moment donné, que ces sujets de société soient pris en charge par la puissance publique, qu'on légifère, et en l'occurrence sur l'histoire du harcèlement, je reviens là-dessus, sur le harcèlement de rue. Il y a quand même, en fait, ce que les Norvégiens appellent une pyramide, c'est-à-dire qu'il y a un continuum quand même entre le harcèlement de rue et ce qu'ils appellent la culture du viol. Ça veut dire que c'est peut-être moins important, moins grave, comme ça en apparence, évidemment, que le féminicide ou la pédophilie. Mais en fait, ça se tient. C'est-à-dire que c'est dans les différents éléments qu'à un moment donné, on va commencer à réussir à faire changer les mentalités, travailler l'éducation, réprimer, accompagner. Il y a tellement de volets sur lesquels il faut agir que ce Grenelle, de toute façon, ça va pouvoir permettre d'évoquer ça. Il est dingue aujourd'hui qu'on ait ce niveau de féminicide, de violence et de viol.
85 depuis le début de l'année en France.
Donc, de toute façon, ces débats sont hyper important, et même si une loi en elle-même ne... On a des lois contre le viol et les viols subsistent, mais que la loi accompagne la répression, c'est de toute façon super important. Et ce continuum aussi, il faut le comprendre, c'est-à-dire que je pense que c'est dans les détails. Il y a eu un peu des contestations là-dessus, du genre « Ah, mais si on peut plus être grivois, etc. » Oui, mais il y a quand même quelque chose qui crée en fait la façon dont on considère les femmes, dont on considère l'égalité homme-femme, dont on considère le droit, qui est soumis, qui appartient à qui. Il y a dans le harcèlement une histoire de soumission qui n'est pas la même chose que de la courtoisie ou de la galanterie ou de la drague. Voilà.
Ça permettra aussi, Michel Taube, d'aller plus loin que le côté symbolique que vous évoquiez.
Oui, j'ai envie de dire, il faut aller plus loin que le côté symbolique. Ne serait-ce que parce que le président de la République a annoncé la couleur dès son arrivée à l'Élysée. Il a dit que ce serait la grande cause nationale du quinquennat. Pendant 5 ans, ça allait être le grand sujet. Et c'est vrai qu'il y a quand même un décalage entre ce volontarisme affiché, une Marlène Schiappa extrêmement volontariste, qui effectivement épouse la cause dont elle est chargée, mais qui en même temps n'a pas les moyens de ses ambitions ou ne veut pas les avoir. Elle n'est que secrétaire d'État en 30e rang dans le protocole du gouvernement. Si on voulait faire un quinquennat dédié à cette grande cause nationale des violences faites aux femmes, il fallait en faire un super ministère ou la mettre en numéro 2 du gouvernement. Parce qu'il s'agit de la moitié de nos concitoyens qui sont directement concernés par le sujet. Et je trouve que le décalage entre la communication politique ou le volontarisme affiché selon de quel côté vous placez et les faits, les moyens... Je donnerai un autre exemple. On parlait avant du grand débat national. Pendant le grand débat national, et ça fait partie des violences faites aux femmes, une des grandes revendications qui a été parmi les plus fréquentes dans le grand débat national, c'était les femmes isolées qui disaient pour régler leurs problèmes de fin de mois et répondre à leurs problèmes de pouvoir d'achat, qui demandaient à ce que l'État les aide davantage pour récupérer leur pension alimentaire, parce que très souvent, elles n'arrivent pas à les récupérer. Donc il y a une demande très forte, ça a été relayé dans plein de médias, il y a eu des conférences auxquelles Marlène Schiappa a participé en disant « on va s'en occuper, on va s'en occuper ». Aujourd'hui, la loi n'a pas changé, alors qu'il y a des propositions très concrètes de prise en charge, de relais par la caisse d'allocation familiale ou par l'État, et ça n'a pas été fait. Donc le temps des mesures concrètes est venu. Le symbolique ne suffit pas. Et pour le moment, quoi qu'en dise la ministre, elle est sur le terrain symbolique. Il y a le G7 le 24-25 août. Il y a une forte mobilisation de l'État français, une diplomatie féministe que veut incarner Marlène Schiappa. Enfin, concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Donc là, le Grenelle contre les violences faites aux femmes, c'est le moment où on doit passer du symbolique au concret. Sinon, ça va se retourner contre le gouvernement et ils vont pas tenir 5 ans à se contenter de communiquer.
Comment on évite justement, Alexis Poulain, de rester encore une fois dans l'affichage?
On fait des lois, on a des missions interministérielles qui font que on met à la fois la justice, la pénitentiaire, tous les services concernés pour que les choses changent. Avec, on connaît les solutions, effectivement. Il y a déjà des préconisations, il y a des associations qui travaillent depuis longtemps, qui ont enfin maintenant...
Elles se plaignent justement entendues à chaque fois de ne pas être entendues.
Bien sûr, et là c'est encore une fois le risque, c'est de dire ah ben on va encore délibérer, vous faire parler aux tribunes, on aura des témoignages incroyables qui vont choquer tout le monde, et puis on attendra encore les lois, on attendra encore les changements nécessaires dans les administrations, c'est plus possible. C'est-à-dire que le constat est fait, très bien, faire des amendes dans la rue, très bien, mais qu'en est-il maintenant de la sécurisation des femmes qui sont sous l'emprise d'un mari violent, comment on les met à l'abri, pareil pour les enfants. Enfin, tout ça, il y a déjà des préconisations qui sont proposées, qui sont sur la table, qui sont discutées depuis déjà plusieurs années. Ben, il est temps de le faire.
Est-ce que vous partagez l'optimisme, si l'on peut dire, de Michel Taube, justement, sur ce à quoi mènera ce Grenelle, Cécilia Gabizon?
Non. Pour une fois.
Ou Alexis Poulain, si vous voulez continuer.
Alors moi, c'était moins un optimisme que
ou de l'espoir,
qu'un appel à des mesures concrètes.
Mais encore une fois, par contre, je reviendrai sur ce qui a déjà été dit, c'est qu'en fait, la société est en marche sur ce sujet. Et donc, la société, ça pousse très fort. Là, il y a une énorme mobilisation et qui ne va pas s'arrêter. En fait, c'est devenu une nécessité. Alors, le Grenelle, probablement, on assistera, hélas, au phénomène qu'on connaît, qui est un peu une confiscation, une mise en lumière, puis une confiscation par le politique. Mais petit à petit, on verra si on en arrive à déboucher et on fera en sorte, quand on est militant, de déboucher sur des mesures concrètes.
Cécilia Gabizon, Alexis Poulain, Michel Taube, vous restez bien évidemment avec nous. Les informés continuent dans un instant, 20h40. Claire Flochel pour un rappel de l'info.
Emmanuel Macron salue le dévouement inlassable du maire de Signes dans le Var au lendemain de sa mort. Jean-Mathieu Michel, percuté hier par un fourgon sur un chemin de campagne. L'élu est intervenu pour tenter d'empêcher deux hommes de jeter des gravats. Le véhicule a fait une manœuvre et renversé le maire. L'hôpital Pasteur 2 à Nice annonce son intention de porter plainte après une agression puis des dégradations aux urgences. Hier soir, un homme ivre a agressé une infirmière. Il l'a frappée à l'œil et sa collègue qui était derrière elle a reçu elle aussi un coup sur le nez. Plus tard, un homme est entré aux urgences. Il a forcé un local technique et dégradé le matériel. Le petit Français de 6 ans, poussé dimanche dernier du haut du musée Tate Moderne de Londres, souffre de multiples fractures, notamment à la colonne vertébrale. Son agresseur présumé, un adolescent de 17 ans, a été inculpé pour meurtre. Il dit ne pas connaître la victime. Les feux progressent en Ardèche. 80 hectares de forêt ont déjà brûlé. 330 pompiers et 9 avions bombardiers d'eau luttent contre 2 incendies sur la commune de La Blachère. Un camping a été évacué à titre préventif. Les élus et les éleveurs de l'Ariège rassemblés devant la préfecture à Toulouse cet après-midi. Ils demandent le retrait de l'ours des Pyrénées. Selon eux, les attaques de troupeaux sont en constante augmentation. Il y aurait actuellement une cinquantaine d'ours en Ariège. Et puis une minute de silence et brassard noir au départ de la 4e étape du Tour de Pologne cycliste en hommage à Björg Lambrecht, le cycliste belge de 22 ans mort hier victime d'une chute.
France Info.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Et on va parler à présent de ce décret pris hier par le Sénat à Rome. 1 million d'euros d'amende, jusqu'à 1 million pour les ONG dont les bateaux entreraient dans ces eaux territoriales sans autorisation. L'Italie durcit donc encore le ton envers ceux qui portent secours aux migrants en Méditerranée. La réaction de la France et de l'Europe, eh bien il n'y en a pas, déplore sur France Info le président de France Terre d'Asile, Pierre-Henri.
L'Union européenne, c'est aussi une communauté de valeurs que l'Italie, bien qu'elle soit souveraine, est en train de bafouer. Sauver des vies en Méditerranée, me semble que c'est une tâche qui s'impose à tout le monde. Il va bien falloir que l'Espagne, Malte, la France, les puissances méditerranéennes trouvent une réponse commune. Sinon, ce sont nos valeurs qui se noient en Méditerranée.
L'Union européenne regarde l'Italie et ne fait rien, dit aussi Pierre-Henri. Nos valeurs sont en train de se noyer, Alexis Poulain.
Oui, c'est l'hypocrisie en fait sur cette crise migratoire qui arrive à sa limite totale. Enfin, on a vu sous la commission Juncker, il y a eu tellement de sommets de la dernière chance de crise, cet enjeu migratoire qui devait être pris à bras le corps. Résultat, Frontex qui n'a pas assez de moyens, qui est même montré du doigt pour le traitement des migrants. Et puis une hypocrisie qui fait que plus le naufrage est loin des côtes européennes, moins il a lieu en fait. La Méditerranée reste un cimetière. Alors moins que lorsque ça a été vraiment le haut de la crise syrienne, mais ça reste le cas. Et comme on a externalisé simplement le traitement de la sécurisation des frontières à la police libyenne, qui fait un travail comme elle peut, sachant que les mafias ont carte blanche en Libye pour les camps de torture, pour les filières de trafic humain, rien n'est fait là pour aider les Libyens par l'Europe, rien du tout. Et puis la Turquie qui, elle, reçoit quelques milliards pour fermer ses frontières et contenir là aussi les réfugiés syriens sur son territoire. Donc c'est une honte, la politique migratoire de l'Europe. C'est bien beau de se targuer de valeurs quand on refuse l'accès au port de Marseille à l'Aquarius parce que soi-disant le port espagnol serait plus près. C'est exactement la même chose que ce que fait Salvini, sans faire de loi bien sûr, mais c'est un refus d'accueil, c'est un refus d'entraide aussi. C'est très grave parce que derrière c'est une campagne simple. La xénophobie, ça paye toujours en politique, malheureusement. C'est simple. Le problème, c'est toujours l'étranger. Ça marche.
Ça, c'est clairement la campagne qu'a choisi Matteo Salvini en Italie.
Et on voit, ça paye. Et le mouvement 5 étoiles qui faisait coalition avec lui s'incline et se met à genoux devant Salvini pour voter cette loi scélérate.
Et le problème, c'est la réaction. On se souvient d'Emmanuel Macron avant la campagne des européennes. On devait être fin avril, début mai, qui s'opposait très ouvertement à la politique de Matteo Salvini sur les migrants. Depuis, c'est un peu silence radio, Michel Taube.
Alors, il y a quand même eu un pas de fait il y a 15 jours, ou d'un début d'accord non pas européen, parce qu'au niveau de l'Union européenne, c'est totalement bloqué, mais entre 14 pays volontaires qui sont sur le point de s'engager.
On parle ici encore à tout d'accord.
Voilà, qui sont sur le point de s'engager. On y met les réserves d'usage parce que le jour où il faudra passer à l'action, ça va peut-être changer. Mais qui seraient sur le point de s'engager à accueillir automatiquement tout migrant qui serait intercepté en Méditerranée ou qui débarquerait sur le sol européen. Ceci dit, moi je me garderais bien de donner des leçons à M. Salvini. Pour une raison très simple. Il a 38% d'opinion favorable dans son opinion publique. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé au pouvoir? Les Italiens sont pas moins humanistes que nous, les Français. Ils sont pas moins attachés au respect des droits fondamentaux. J'ai milité 10 ans contre la peine de mort dans le monde. Je peux vous dire qu'en Italie, ils sont opposés à la peine de mort beaucoup plus que ne le sont les Français. Donc on n'a pas de leçon à donner aux Italiens. Pourquoi les Italiens ont porté Salvini au pouvoir? C'est parce que les Italiens ont été seuls pendant des années à gérer cette crise migratoire. En Sicile, au sud de l'Italie, ça a posé de très gros problèmes.
Pareil, c'est arrivé. Tous les pays frontières de l'Europe ont la même problématique.
Moi, je me souviens du quinquennat François Hollande, qui effectivement faisait des beaux discours comme on a l'habitude de les faire, mais combien les Français ont-ils reçu de migrants venant d'Italie? Très peu, c'était quelques milliers. Lorsqu'il y a eu 1 million de migrants qui sont arrivés en Allemagne, nous en avons pris très peu notre part. Donc nous payons tous, ou plus exactement les Italiens ont payé le prix très fort de l'absence de solidarité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelques années après, c'est facile de donner des leçons aux Italiens. Et je pense que ça fait... On arrive trop tard pour manifester notre solidarité.
Vous parlez de l'Allemagne, il y a justement, c'est assez cynique, mais justement politiquement, on voit qu'Angela Merkel, qui elle avait justement annoncé un accueil très, très massif de migrants a beaucoup perdu en popularité à cause de cette mesure.
C'est vrai. Et l'extrême droite qui a poussé très fort, l'AFD italien qui a 100 députés au Bundestag, on n'avait jamais vu ça depuis les années 40. Enfin, vraiment, les choses peuvent changer très vite. Donc, donc il faut aussi faire attention si à donner trop de leçons à Salvini. Ceci dit, évidemment, Salvini est un démagogue. Il joue évidemment sur les peurs collectives. Mais la réalité, c'est qu'en Italie, ils ont vraiment eu le sentiment d'être seuls à gérer une crise migratoire extrêmement complexe.
Cécilia Gabizon.
Ouais, alors je partage pas tout à fait cette vision, mais c'est pas une histoire de donner des leçons évidemment quand on est là tranquillement ou à la maison de la radio, voilà. Mais au total, l'Italie a moins de migrants que la France, beaucoup moins que l'Allemagne évidemment. Là, le nombre de migrants par habitant est beaucoup plus faible que dans plein de pays en Europe. Donc, et pour avoir été en Italie récemment, on peut pas dire, bien sûr, c'est tragique, mais on peut pas dire qu'ils soient submergés par les migrants. Et moi, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt bien sûr, l'immigration est une difficulté, surtout l'immigration clandestine. L'immigration clandestine est difficile, il faut la gérer. J'ai l'impression, je dirais, qu'il s'agit d'une pulsion morbide, mais de l'Europe, de l'Italie, mais de l'Europe, une pulsion morbide. C'est un pays où la natalité est en train de s'effondrer. Il y a plus de morts que de naissances. La population diminue. Donc, quelque part, dans une vision plus libérale et peut-être plus humaniste, l'immigration pourrait être quelque chose qui viendrait nourrir l'Italie. Et aujourd'hui, ils sont dans cette morbidité où, alors qu'il n'y a pas plus de migrants en Italie, d'immigrés que dans le reste de l'Europe, voire moins. En fait, c'est devenu la cause numéro un, c'est-à-dire l'épouvantail numéro un, le grand, pour le coup. Alors là, moi, je parlerais quand même de bouc émissaire, avec des poussées de racisme qui sont assez inquiétantes aussi en termes d'agression. Donc, et puis, je replacerai les choses. Aujourd'hui, la crise migratoire, elle est loin d'être finie. On est hypocrite, on la repousse, elle est loin d'être finie après la crise migratoire de la Libye. Il y aura la crise migratoire écologique. Donc en fait, on va être dans une immense crise migratoire qui ne va pas s'achever sur les prochaines décennies.
Mais il y a deux choses qui se jouent, puisqu'il y a effectivement la répartition des migrants, la crise migratoire, mais il y a aussi le fait de sauver des vies humaines. On a l'impression que déjà, on refuse, entre guillemets, de s'occuper de ce problème en empêchant les navires d'aller déjà sauver des vies humaines.
On parle de 800 morts. 34 000 morts dans la Méditerranée. Oh. Est-ce qu'on doit se poser la question de savoir s'il faut les sauver? Enfin, quel est le sens de tout ça?
C'est pire que ça. La loi, en fait, dit qu'il faut les laisser mourir. En fait, là, la loi est faite pour mettre des amendes aux ONG qui font du sauvetage et mettre en prison les capitaines de ces bateaux. Donc, c'est vraiment une loi qui est là pour tuer. En disant, c'est pas la peine que vous veniez. Mais comme toute la politique européenne, elle a pour tuer. Enfin, aux frontières, Frontex ne récupère pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut absolument que la petite frêle embarcation de migrants s'échoue le plus loin possible des côtes européennes. Et le problème est réglé. On ne le voit pas, le problème. Donc, c'est un déni de réalité qui est extrêmement dangereux. Et derrière, on peut avoir un discours xénophobe très porteur dans les urnes. La réalité en Italie, c'est que vous avez des travailleurs sans papier qui sont surexploités dans le sud, avec les grandes exploitations agricoles. Ça ne gêne personne de les avoir là et de les payer rien du tout et de les traiter comme des esclaves, quasiment. On a encore, cet été, on a encore des histoires de camps comme ça, de travail qui sont pas acceptables. Donc, c'est encore une autre hypocrisie qui permet de jouer sur cette peur panique avec derrière l'idée du grand remplacement, ce que vous disiez, c'est-à-dire voilà, on fait pas assez de bébés, donc c'est eux qui vont repeupler l'Europe, et ça fait derrière bien des discours de haine qui ne reposent sur aucune réalité, puisque l'immigration, c'est un phénomène banal, historique, et c'est d'abord régional. Les migrants qui arrivent en Europe, c'est rien comparé à ce qui se passe autour de la Syrie. Je parlais de la Turquie tout à l'heure, mais voilà, on a le Kurdistan, l'Irak et d'autres.
Alexis Poulain, Michel Taube, Cécilia Gabizon, suite et fin des informés dans un instant. Il est 20h50, Claire Flochel.
Depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris, des tonnes de plomb sous forme de particules se sont dispersées dans l'air. L'Agence régionale de santé a effectué des dépistages sur 164 enfants du quartier. Selon les résultats, 2 se trouvent au-dessus du seuil de déclaration obligatoire et 16 autres au-dessus du seuil de vigilance. La commission des lois du Sénat annonce qu'elle va consulter les maires sur les violences auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. Après la mort de Jean-Mathieu Michel, le maire de Signes dans le Var, renversé par un fourgon venu décharger illégalement des gravats sur un chemin. La garde à vue du conducteur a été prolongée ce soir. Franck Chesneau fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Le pilote de la sécurité civile de 49 ans est mort vendredi dernier dans son avion alors qu'il luttait contre l'incendie de Générac dans le Gard. Les obsèques de Steve Maya Canisso auront lieu lundi prochain. Une cérémonie qui se fera dans la plus stricte intimité. Le jeune homme de 24 ans est mort à Nantes le soir de la fête de la musique lors d'une intervention controversée des forces de l'ordre. Samedi, près de 2000 personnes ont manifesté dans les rues de Nantes contre les violences policières. Aux États-Unis, de nombreux habitants de la ville d'El Paso s'opposent à la venue annoncée demain de Donald Trump, dont la détermination à combattre l'extrémisme est mise en doute. Un suprémaciste blanc a tué 22 personnes, dont 8 Mexicains, dans cette ville du Texas le week-end dernier. Et puis 20 départements du centre et de l'est de la France en vigilance orange aux orages. Fortes pluies et vents violents sont au programme. Les territoires concernés s'étendent du Bas-Rhin au Tarn-et-Garonne.
France Info.
20h-21h, les informés, Victor Matet.
Quatrième et dernier débat, et oui, déjà ce soir, dans les informés, faut-il retirer les ours des Pyrénées ariégeoises, comme le réclament des maires d'Occitanie. Ils étaient une centaine ce matin à manifester à Toulouse pour demander à l'État d'intervenir.
Tous les deux jours, on va dire, il y a des brebis qui tombent, donc ça devient problématique. Alors, et ne parlons pas des randonneurs, puisque maintenant, tous ceux qui se promènent en montagne croisent un ours à un moment ou un autre. Moi-même, il y a moi et un qui m'a grogné après, donc bon, ça devient... On ne sait pas comment ça va finir. Bon, les animaux, c'est très malheureux, mais quand il va y avoir une mort humaine, ça sera encore pire.
Après les brebis, les hommes directement menacés par les ours, Michel Taube.
Les hommes, alors heureusement, on n'en est pas encore là. Je trouve ça incroyable. C'est tellement représentatif des dysfonctionnements de notre société, des dialogues de sourds qu'il peut y avoir entre les éleveurs d'un côté, les amoureux des bêtes de l'autre.
On a l'impression de revivre les mêmes scènes tous les
voilà,
six mois.
Voilà, je veux dire, il semblerait qu'en France, ce soit la plus petite population d'ours d'Europe et c'est celle où il y a le plus de dégâts, paraît-il. Mais pourquoi ? On n'est pas un pays assez développé pour pouvoir gérer une telle difficulté. Certains accusent les éleveurs d'être des extrémistes radicalisés, d'autres d'être des naturalistes complètement étranges, hostiles à l'homme. Enfin, on est vraiment dans un dialogue de sourds et voilà. Alors là, j'ai aucune solution à donner pour le moment, mais c'est tellement représentatif des dysfonctionnements de notre pays, et je pense pas que c'est les 50 ours qui sont dans les Pyrénées, c'est quand même très grand les Pyrénées, qui mettent l'homme en danger.
La cohabitation, en tout cas, alors pas entre l'homme et les ours, mais entre les ours et les brebis, semble impossible à entendre en tout cas les.
Oui, mais c'est intéressant parce que c'est alors effectivement c'est la vieille lutte. On a l'impression qu'on l'entend chaque été, ça revient, mais ça pose la question de la biodiversité. Si je le resitue, c'est qu'en fait aujourd'hui on se rend compte qu'il y a eu un grand rapport qui est sorti. Il y a 42% en Europe des animaux et des plantes qui sont en train de en diminution. Donc le nombre d'espèces diminue. Là, on parle de 50 ours dans les Pyrénées. Et en fait, si on veut pas se rendre compte que le respect de la biodiversité, ça va demander des aménagements. La façon dont on vit jusqu'à présent a conduit à une extinction progressive d'un certain nombre d'espèces. Donc de toute façon, il va falloir repenser la façon dont on vit. C'est-à-dire que, effectivement, si on n'est pas capable de repenser la cohabitation entre des brebis à l'estiage et l'ours, ça va être un problème. Parce que d'une manière générale, on va continuer à détruire des espèces pour pouvoir faire régner les activités de l'homme partout. Or, on est dans un moment charnière quand même de l'évolution de la planète où on se dit on est en train de tout détruire autour de nous. Je pense que c'est plus... Bien sûr, là, les bergers, quand on les entend, je comprends, eux, ils perdent des brebis, etc. Mais à un moment donné, il va falloir penser les choses maintenant et dans 10 ans, c'est quoi? Et donc, qu'est-ce qu'on trouve comme solution? Le facteur biodiversité doit être une composante de toutes nos décisions de comment on déploie des activités. Si on n'est pas capable de préserver la diversité, c'est que cette activité, elle ne va pas en l'état.
Les solutions, Alexis Poulain, elles existent pourtant, on entend à chaque fois dire voilà, il faut protéger les troupeaux d'une certaine manière, c'est possible.
Oui, mais c'est encore une fois une volonté politique et des moyens. Il y a des façons de défrayer les ours, de les tenir loin des troupeaux. Le problème, c'est que c'est des bestioles pas stupides, qui ont compris qu'il suffit d'attendre un peu, de revenir, et puis qui commencent à comprendre comment ça fonctionne. Donc tout le problème, c'est celui de la cohabitation. Est-ce que il y a une volonté des populations locales de cohabiter avec l'ours? Certaines oui, certaines non. Est-ce que les éleveurs peuvent assurer la sécurité de leurs troupeaux? Oui, si des mesures sont prises et oui, si les moyens sont mis. Si c'est pas le cas, alors oui, l'ours est un problème pour toute une filière d'élevage dans les Pyrénées. Et c'est bien là, c'est la question de dire est-ce qu'on veut à tout prix sauver cette biodiversité, sachant que on pourra tuer les ours, mais ils passent les frontières sans papier. Ils viennent de Slovénie, ils viennent d'ailleurs.
Enfin, en hélicoptère.
C'est une réintroduction quand même faite par l'homme à chaque fois.
Oui, mais vous en avez maintenant. Enfin, sur les loups notamment, qui viennent de très loin et qui ne sont pas justement ceux qu'on a réintroduits. Donc cette biodiversité, elle existe. Elle va, si ça fonctionne, de toute façon, être là. Là, ce qui est encore plus cocasse, c'est vraiment les shaddocks. C'est-à-dire qu'on les amène en hélicoptère et que, eh bien, ces 50-là qui risquent. Alors, comme ça marche, ils font des petits oursons. Alors là, il va falloir vite les tuer parce qu'il y en aura trop très vite. Non, il faut trouver une solution pour que, une fois encore, les troupeaux soient protégés, que les populations humaines soient protégées. Mais je ne crois pas qu'on en ait encore. Là, on entend un catastrophisme en disant un jour, un ours va attaquer un promeneur. Espérons que non. Mais c'est un apprentissage. C'est pas non plus sur 10 ans, ça met beaucoup plus de temps. Mais pour ceux qui vivent ça aujourd'hui, les éleveurs, je comprends leur ras-le-bol, je comprends aussi la peur des maires, parce qu'une fois, on en parlait en introduction des informés, ce sera eux les responsables si jamais un accident arrive.
On reparle donc des maires, finalement, dans les informés. La boucle est bouclée. Le mot de la fin, peut-être, pour vous, Michel Thaube.
Ils ont été 103 maires d'Occitanie à manifester à Toulouse aujourd'hui pour 630 brebis tuées par l'ours depuis le début de l'année. Voilà, je vous laisse faire le compte. Moi, je pense qu'il y a vraiment un dialogue de sourds. Il faut qu'ils arrivent à trouver les voies des discussions. Et puis, il existe des solutions concrètes pour organiser la relation entre l'homme et la biodiversité, avec plus de parcs de protection nocturne électrifiés. Enfin, il y a plein de mesures qui sont pas mises en œuvre parce qu'il y a aussi une position un peu idéologique tenue par les uns et les autres, comme très souvent en France.
Et un manque de moyens.
Position idéologique et manque de moyens, effectivement, comme vous le rappelez. C'est déjà la fin. Merci à tous les trois d'être venus ce soir dans les informés de France Info. Cécilia Gabizon, fondatrice de l'incubateur Media Maker, Alexis Poulain, cofondateur du Monde Moderne, et Michel Thaube du site d'information Opinion Internationale. Merci à tous les trois.
Merci.
Très bonne soirée. Les informés reviennent demain.